Alors, plan de rigueur ou réforme de l'État? Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Nicolas Sarkozy doit présider demain un conseil de modernisation des politiques publiques. Il s'agit de réorganiser notre administration et de faire des économies drastiques sur le modèle de ce qu'ont fait un certain nombre de pays étrangers depuis les années 90.
Ces réformes ont été menées au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, au Danemark et en Suède, entre autres. Elles ont permis à ces pays d'en finir avec leurs déficits, mais aussi souvent de réinvestir dans leurs services publics. Dans bien des cas, la crise des finances était devenue si importante que les habitants étaient prêts à des sacrifices. La situation n'est pas aussi critique en France, même si François Fillon l'a déclaré en faillite il y a 6 mois. La réforme de l'État, c'est rendre l'État plus efficace. L'objectif numéro 1 ne doit pas être de supprimer des postes de fonctionnaires. Ce n'est d'ailleurs pas là qu'on fait le plus d'économies dans l'immédiat. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, soit 35 000 postes, c'est 900 millions d'euros d'économisés par an, pour un déficit global de près de 40 milliards. Ces pays ont réussi grâce à une évaluation régulière et sérieuse des politiques publiques, ce qui ne se fait pas en 6 mois, estiment les spécialistes. Le fait que la France va désormais adopter dans son budget un plan de dépenses sur 3 ans va dans le bon sens, à condition que les ministres et leurs cabinets conservent eux aussi une certaine stabilité et ne donnent pas régulièrement des consignes contradictoires à leur administration. Enfin, pour réussir, il faut réunir un certain consensus, y associer les fonctionnaires. De l'avis d'un proche du dossier, certains ministres ne savent pas encore ce qui va être annoncé demain dans leur domaine.
D'après le quotidien Le Monde, le gouvernement devrait annoncer 6 à 7 milliards d'euros d'économies d'ici 2011.
Alors demain, il sera question des politiques du logement, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la santé. D'après les Échos, il est question par exemple de revenir sur certains allègements fiscaux pour les particuliers qui achètent pour louer et peut-être de supprimer certaines aides aux entreprises. Depuis le mois de juin dernier, plus de 200 inspecteurs des finances ou experts de cabinets d'audit privés passent au crible les dépenses. En décembre, une première vague de mesures a été annoncée pour simplifier le droit, divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge par exemple. Pour réorganiser l'administration, on fusionne la direction des impôts et celle de la comptabilité publique. On rassemble au niveau régional certains services de l'État comme l'équipement et l'agriculture. Et puis en parallèle, le gouvernement prépare une réforme de la fonction publique. Il est question de faire plus de rémunération au mérite et moins à l'ancienneté, de favoriser la mobilité au sein de la fonction publique où les postes sont aujourd'hui extrêmement cloisonnés, éventuellement de développer un contrat de droit privé avec des fonctionnaires qui n'auraient donc pas la protection de leur statut. On voit bien les inquiétudes que ça suscite chez les agents qui ont fait grève ou manifesté récemment dans l'éducation, aux finances, à l'équipement. À l'étranger, ça s'est passé plus ou moins brutalement. En Suède, que Wojtek Kalinowski du mensuel Alternative économique connaît bien, la réforme de l'État s'est associée en fait à un véritable projet de société.
La légitimité de l'État est étroitement liée avec la façon dont les risques et les sécurités sont partagés dans la société. Il faudrait surtout mentionner cette double réforme tout début des années 70. D'une part, une réforme du droit du travail qui a sécurisé l'ensemble des travailleurs. Elle continue d'être critiquée par les employeurs, mais ça a été, du point de vue des salariés, une sécurisation parmi les plus généreuses qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Mais en même temps, les salariés du public ont été inclus dans ce système. L'emploi à vie a été aboli pour l'ensemble du travailleur du public, à l'exception des magistrats et des quelques-uns des professeurs de l'université, mais ce sont des exceptions rares. Même les militaires peuvent être licenciés, et ils l'ont été massivement dans les années 80 et 90, quand le budget de la défense a baissé considérablement. Beaucoup d'officiers de l'armée suédoise ont retrouvé des beaux postes, des postes à responsabilité dans les privés.
Donc ça permet d'adapter la fonction publique aux besoins de la société?
L'idée fondamentale de ces réformes dont on parle, c'est que l'État et la fonction publique doivent obligatoirement se réorganiser pour pouvoir assurer l'essentiel de sa mission. Il évalue constamment la fonction publique. Il se demande constamment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est moins utile. Il arrive constamment à trancher, à faire des arbitrages. En même temps qu'il fermait des casernes, l'État et les régions en Suède ont ouvert toute une série d'universités nouvelles. En résultat, ils ont construit une fonction publique qui est à la fois efficace et légitime et qui explique pourquoi les Suédois sont toujours prêts à payer l'impôt.
Et ils en payent beaucoup des impôts puisque la Suède conserve 37% de fonctionnaires contre 25% en France. Comme quoi une fonction publique, même importante, peut non seulement rendre des services précieux, mais aussi dynamiser l'économie.
Voilà, c'était Global Echo par Sarah Guibaudeau.